9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Agathe Le Caron.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous présentez tous les jours la Maison des Maternelles qui a fêté ses 20 ans. Vous y êtes pour la 6e saison. C'est un record dans l'émission qui a déjà été présentée par Julia Vignali qu'on connaît bien ici, Daphné Burki, Karine Lemarchand, Mike Nabirabin. Émission créée sur France 5 qui est désormais sur France 2. C'est tous les jours à 9h30. Ça n'a pas bougé.
Ça n'a pas bougé. Tout ça est très vrai.
Émission qui se décline d'une nouvelle manière et c'est la raison pour laquelle on tenait à ce que vous soyez ici à ce micro avec ce magazine papier trimestriel qui sort en kiosque cette semaine. Ça s'appelle Les Maternelles avec Agathe Le Caron. C'est écrit en dessous. C'est un trimestriel, avril, mai, juin, 4,50 €. Le concept du magazine, c'est les maternelles déclinées où il y a du plus, où il y a du moins.
C'est pas les maternelles déclinées parce que le format papier est un format particulier et c'est moi qui tenais justement à ce que cette matière qu'est la parentalité, qui est tellement riche, dont on a tellement besoin quand on la vit, se décline sur papier parce que on peut aller évidemment très profondément dans les dossiers, on peut corner les pages, on peut s'arrêter, y revenir, etc. Donc non, c'est pas l'émission déclinée du tout pour le coup.
Alors, le concept du magazine, c'est lequel, s'il fallait le pitcher?
C'est finalement prendre le contre-pied des tendances, parce que je parlais de la matière en mouvement, c'est des tendances, c'est une matière où il y a des modes.
Ouais.
Il y a la mode de l'éducation positive, les modes des hauts potentiels. Mmh. Justement, nous, on dédramatise.
Oui, mais alors déjà, les maternelles prennent le contre-pied des modes. Donc, si vous prenez le contre-pied du contre-pied, vous êtes dans la mainstream.
Alors, de toute façon, moi, ma façon de parler en général et en particulier de la parentalité, c'est évidemment de jamais en parler avec des chichis. Je déteste ça. Mmh. Donc, j'ai horreur des petites coquetteries. Alors, ça va ton petit bouchon et tout, les kids, les machins, tous les mots en anglais. Je supporte pas. Donc, forcément, on va retrouver ce style-là et le ton de l'émission, puisqu'il est volontairement sans tabou et sans chichis aussi. Mais, vous savez bien que le papier, c'est encore autre chose. Voilà, on va pouvoir. D'abord, on a le temps d'avoir la parole de plusieurs experts qui s'entrechoquent. Enfin, voilà.
Alors, on va parler des experts après. D'abord, ça commence par une page de blague. C'est comme du stand-up. Faites des enfants, c'est bon pour la santé. Vous avez des auteurs, c'est vos blagues à vous?
Non, c'est des blagues qu'on peut aller chiner sur les réseaux.
Contrairement à un animal domestique, ils ont de la conversation.
Oui, c'est ça.
ils apportent la télécommande quand vous êtes trop naze pour aller la chercher.
Mm-hmm.
Voilà. Et puis,
c'est surtout des mantras. Vous voyez, c'est surtout des exemples à suivre. Faire de ses enfants des petits chaouches, c'est un objectif de vie quand même.
Vous êtes en couverture avec deux enfants, mais ce ne sont pas les vôtres. Je le précise et vous le précisez d'ailleurs, avec une vanne.
Oui, alors dites-la moi parce que je ne l'ai pas.
On vous voit, il y a écrit « J'aurais bien posé avec mes enfants,
ah oui,
mais pour une fois qu'ils dormaient.
Oui, » c'est ça.
Vous avez oublié votre propre vanne.
Oui, j'ai oublié ma propre vanne. Pardon, Philippe. Non, mais c'est vrai que c'est parce que le dossier est consacré au sommeil, le grand dossier, le nerf de la guerre.
Là aussi, avec un titre très marrant, « Le sommeil, on en parle. Comment survivre à une nuit de 4h44 ?»
Et encore, on a été généreux. Hein.
Double page qui m'a beaucoup séduit. Leur question qui tue. Alors, c'est les questions des enfants. Il y a le classique, évidemment, comment on fait les bébés. Tous les parents ont dû répondre à ça, après avoir eux-mêmes posé la question. Mais ensuite, ça se complique. Pourquoi tu sens mauvais de la bouche?
Oui, c'est ça.
On vous l'a déjà demandé?
Ça m'est déjà arrivé, après avoir mangé un bon petit Minster, de parler, de faire un bisou à mes enfants qui me disent « tu pues, oui ». Ça nous est tous arrivé.
Pas facile, celle-ci, j'ai eu un peu de mal. Pourquoi le monsieur dort dehors?
Ouais, alors ça, question qui arrive aussi et qui est évidemment déchirante. Et en fait, je crois que si je peux donner un petit outil pour les parents, être toujours au plus proche de la vérité, de la vraie réponse.
Alors là, on ne sait pas s'il faut dire oui ou non, parce que la réponse est oui, la réponse est non. Est-ce que tu vas mourir?
Eh bien, la réponse est oui. Donc oui, il faut dire la...
Oui, mais la réponse est non. Parce que ça veut dire, pour un enfant, est-ce que tu vas mourir dans les 15 jours?
Non, mais
donc
justement, il faut dire
non.
Oui, je vais mourir, mais pas dans les 15 jours, a priori. Voilà.
Ma préférée, c'est la suivante. Peut-on rendre mon petit frère à la maternité?
Oui, ça, forcément, vous allez aussi, en tout cas si vous faites des enfants rapprochés, avoir cette question-là et avoir à gérer la jalousie du grand. Et c'est un sujet très important, ça.
À chaque fois, ce que vous dites, c'est pas de panique. Le rôle des experts dans le magazine, justement.
Le rôle des experts dans le magazine, faire un peu son marché, parce que c'est un peu déstabilisant. Il y a toujours, par exemple, sur l'éducation, je vous disais tout à l'heure, l'éducation positive qui a été très à la mode, on en revient un petit peu, on dit maintenant, il faut punir les enfants, il faut leur remettre un cadre, on est paumé.
Mmh.
En fait, ce qui est intéressant, c'est de lire la parole des experts, de faire son marché en fonction de sa petite voix intérieure.
Et
c'est
de retrouver comment on sa petite voix intérieure. Comment on le fait, ce marché? Je donnais un exemple que vous donnez vous-même. Vous dites, on nous a dit, parfois, vous étiez à la maison des maternelles, il y avait un expert qui venait dire, il faut laisser l'enfant faire ce qu'il veut. Le lendemain, un autre expert dit « Il ne faut surtout pas laisser l'enfant faire ce qu'il veut, on en fait des petits tyrans, en tout cas des futurs malheureux. » Comment on fait son marché ?
Alors généralement, comme moi j'ai fait, le moment qui suit l'émission, on leur fait faire ce qu'ils veulent, on se rend compte que ça ne marche pas. Le lendemain, on les punit, on se rend compte que c'est peut-être un petit peu extrême aussi. Et la solution est toujours un petit peu entre les deux, et elle est aussi en fonction de sa propre éducation. Moi, je rabâche, faites-vous confiance, essayez de réécouter votre petite voix intérieure, parce que vous connaissez votre enfant et
oui,
chacun
donc,
est particulier.
Oui, mais donc ça veut dire, je vous entends bien sûr, ça veut dire qu'il ne faut pas écouter les experts.
C'est pas vrai, parce qu'en fait, chaque expert va apporter cette petite pierre par rapport à votre propre construction à vous.
J'ai découvert quelque chose en vous lisant, parce que mes enfants sont grands, donc je ne m'intéresse pas à ce qui arrive maintenant pour les bébés. Il y a 20 ans, les experts disaient qu'il ne fallait pas donner d'arachide aux enfants avant 6 mois. Et maintenant, c'est l'inverse.
Oui, bah, alors là, c'est différent. C'est parce qu'il y a eu des études scientifiques montrant que les allergies, plus on habituait les enfants aux allergènes tôt, moins ils étaient allergiques après. Donc, c'est vrai que, mais moi, entre Gaspard, qui a 8 ans, et Félix, qui a 6 ans, déjà, c'était pas les mêmes protocoles. Donc, c'est vrai qu'on est paumé. Et c'est pour ça que je dis que c'est une matière en mouvance. Après, je crois qu'il faut surtout, et c'est aussi le but de ce magazine, on vous donne des outils. Et après, vous faites avec ce que vous êtes.
Oui, mais comme on n'est pas scientifique, personne ne peut savoir s'il faut ou non donner de l'arachide à un enfant, un bébé de 4 mois.
On suit des protocoles. En l'occurrence, quand même, tous les médecins sont d'accord là-dessus. On donne de l'huile d'arachide et maintenant du jaune d'œuf à partir de 4 mois. Et c'est très bien comme ça. Et ça se passe très, très bien.
C'est édité, ce magazine, par Unimédia, comme les petits plats de Laurent Mariotte, qu'on salue, notre ami.
J'embrasse.
Est-ce que l'idée vient de vous, de France Télévisions ou de la société de production des maternelles de P2L ?
Alors, de moi. Et soutenu par Jérôme Caza, donc de la société de P2L. P2L, voilà. Soutenu ensuite par France Télévisions et adoubé par Unimédia. Voilà, en gros, c'est comme ça que c'est passé.
Votre degré d'implication, c'est lequel ?
Je dirais conseillère éditoriale, mais parfois je peux dire aussi que je trouve que soit ce sont des sujets qui sont un peu gnangnans. Enfin, j'ai envie que ce magazine me ressemble puisque je le porte.
Alors, vous écrivez l'édito, c'est normal. Il y a également une interview de vous, mais là, je n'avais jamais vu ça. Ce n'est pas vous qui posez les questions.
Non.
Comme dans le magazine Faustine Bollaert, c'est vous qui répondez. Mm-hmm. Et vous dites des choses très personnelles.
Ça ne sert à rien sinon, hein.
Ah oui, mais là quand même, vous
alors,
racontez...
Alors, qu'est-ce que j'ai dit encore ? Parce que parfois, je me...
J'étais étonnée. Par exemple, vous racontez qu'après votre accouchement, vous étiez beaucoup moins rigolote. Même votre meilleure amie vous l'a dit.
Oui, c'est vrai. Mon meilleur ami, David, que j'embrasse, m'a dit un truc très, très marquant. Il m'a dit, mais t'es quand même beaucoup moins marrante qu'avant. Et en fait, plutôt que de... Alors, ça m'a interpellée, je me suis dit, il va moins m'aimer.
On magnifie la grossesse. On dit que c'est un moment formidable.
Oui, mais c'était formidable d'être moins marrante qu'avant. Je veux dire, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai plus besoin. C'est quelque chose qui m'a tellement rempli, la maternité, qui m'a tellement remise à ma place, qui m'a, parce que toutes les femmes vous le diront, c'est un événement, c'est une telle tempête affective que finalement, l'objectif de notre vie, qui est celui d'arriver à mieux se connaître, tout à coup, c'est un accélérateur de ça. Et donc, j'avais plus besoin de me faire aimer en faisant marrer... Désassembler et tout.
Une fois que l'enfant est né, vous le racontez, moi, je m'imaginais avec tous mes amis autour de moi, dans une bonne odeur de tarte aux pommes, enveloppée dans un grand châle, comme a dit Dupéret, mon bébé dans les bras, qui ne pleure pas, bien sûr, mon mari derrière moi avec sa main, qui me caresse tendrement. Eh bien, pas du tout. La réalité, c'était du sang et des larmes.
Ah oui ?
Boum, point final.
Bah oui, parce que c'est la réalité du postpartum pour une majorité de femmes. Il y a des femmes pour lesquelles ça se passe très bien, mais c'est vrai que je pense que le problème, c'est que pendant sa grossesse, on fantasme le postpartum en se disant oh, je vais faire venir énormément d'amis, on va louer une grande maison, tout sera au ralenti, le bébé sera trop mignon, je vais lui mettre des petits vêtements et ça. En fait, la vérité, c'est qu'on a envie de voir personne, qu'on se sent, qu'on a mal.
Je veux dire pourquoi je ris. Je ris pas parce que vous faites ce témoignage, je ris parce que c'est vous la patronne du journal.
Mais
on n'imagine pas la patronne d'un journal qui s'appelle Les Maternelles vous expliquer que c'est un enfer après la naissance.
Mais je veux pas dire c'est un enfer, c'est une aventure.
Ah, du sang et des larmes, on est plus proche de l'enfer que du paradis.
Oh, alors, je pense pas qu'il y ait une seule jeune mère qui n'ait pas versé une larme après avoir eu son bébé. Donc oui, c'est du sang et des larmes quand
le
même.
Le fameux baby blues. J'ai découvert une nouvelle tendance, la tendance du période sexe. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est ?
C'est faire l'amour pendant ses règles.
En quoi c'est une tendance ?
C'est pas une tendance, parce que
pense
que...
Ah bah si, c'est le titre de l'article,
oui,
c'est alors, la tendance du période sexe.
Voilà, non mais la tendance, c'est d'en parler, je pense.
Ouais.
C'est qu'en fait, je pense que ça existe depuis la nuit des temps. Sauf qu'on n'en parlait pas. C'est ultra... Les règles sont déjà en soi ultra tabou. Alors, faire l'amour pendant ces règles, bon, déjà, je pense que ça dégoûte beaucoup d'hommes. Et puis, les femmes n'y pensent pas. Mais bon, on le faisait quand même. Maintenant, on en parle et on dit, bah ouais, c'est cool.
Et juste un mot, vous dites qu'il n'y a pas de tabou dans l'émission. Et c'est vrai, quand on regarde les maternelles, il n'y a pas de tabou. Vous appelez un chat. Pourquoi avoir choisi période sexe, qui est une expression anglaise?
C'est pas nous qui avons choisi ça. Ça s'appelle comme ça. C'est, voilà, c'est, le concept s'appelle période sexe. Voilà.
Exactement. C'est comme le podcast. Il n'y a pas d'autre mot.
Exactement.
Ou alors, on paraît cuistre. Maintenant, je vais parler du business model. Il y a beaucoup de magazines qui sont articulés autour d'une personnalité. Je ne vais pas tous les citer. Il y a Sophie Davant, Est-ce comme Sophie, Faustine Bollard, Entre nous, le magazine de Michel Simès, il y a celui de Stéphane Plaza, celui de Laurent Mariotte, les petits pas de Laurent Mariotte, je le cite. Pourquoi je le cite? Parce que même si Laurent Mariotte quitte TF1, il continuera à faire de la cuisine. Le vôtre s'appelle les maternelles avec Agathe Le Caron. Que se passe-t-il si jamais vous quittez les maternelles?
Et pourquoi je ne me formerais pas comme puéricultrice, Philippe?
Non mais
bah écoutez, honnêtement, je n'y ai pas pensé, je vous avoue. Je ne me suis pas projetée jusque-là. Mais c'est vrai que
vous
comme ce n'est pas mon cœur
de
métier... Mais je n'ai pas signé de contrat.
Il n'y a pas de contrat.
C'est une autre histoire.
Il n'y a pas de contrat.
Oh bah si, il y en aura sûrement un, mais bon, voilà.
Pour l'instant, il n'y a pas de contrat.
Pour le moment, il n'y a pas de contrat, non.
Vous n'êtes même pas intéressée aux ventes?
Bah non. Non, mais je vous jure que c'est vrai.
Mais je vous crois.
Ben ouais, voilà.
Vous n'êtes pas du genre à mentir.
Ah non, je ne suis pas du genre à mentir.
Je suis juste étonné.
D'ailleurs, je suis en train de dire ça et je me dis, mais pourquoi je lui raconte ça? Vous voyez, je m'en veux déjà. Mais bon,
parce que
vous me posez la question.
C'est une interview média, c'est le principe de l'interview. Si on pose une question, l'autre y répond. Vous allez continuer les maternelles à la rentrée?
Ah oui.
Ah, parce qu'il y a une petite polémique la semaine dernière dans Télé Loisirs. Agathe Le Caron dit qu'elle se poserait la question à la fin de la saison avec cette interrogation. Je vous cite, à 48 ans, suis-je toujours légitime pour représenter les mamans de France? Mais vous avez démenti sur RTL. Personnellement, je m'accroche à cette émission comme une moule à son rocher. Il faudra me déloger.
Il faudra me déloger. Alors vous savez, c'est... pourtant ça fait 22 ans que je fais ce métier et je sais qu'il ne faut jamais faire de second degré, sauf à la radio où là les gens l'entendent.
Parce qu'on a l'intonation à la radio.
Parce qu'on a l'intonation, mais quand la journaliste m'a posé la question, j'ai dit bah oui, je vais avoir 50 ans. Est-ce que je serai légitime? Je me pose la question. J'ai dit donc il sera peut-être temps quand j'aurai 50 ans de me demander si je vais quitter cette émission. Est-ce que je représente encore les maires de France à 50 piges et tout? Bon, je me poserai la question pour dans 15 ans. Et comme le pour dans 15 ans a été coupé, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais forcément. 50 ans, c'est dans 2 ans. Bref.
Oui, bon, écoutez.
Vous n'êtes pas la championne de l'arithmétique, mais vous êtes une championne des médias. Juste un mot, un peu plus grave, info exclue culture média. Jean-Pierre Pernaut, qui nous a quittés récemment, avait un magazine qui s'appelait Au cœur des régions. Il était édité par Burda Bleu. On peut l'annoncer, le magazine de Jean-Pierre Pernaut va s'arrêter. C'est un trimestriel, peut-être vous le savez. Est-ce que
oui,
si
ça, oui.
Il y a un énorme succès, la parution peut changer? Est-ce que ça peut devenir un mensuel vu que vous faites une quotidienne?
Ah, écoutez, ça serait super bon signe, mais pour le moment, c'est pas prévu. On va déjà voir comment le magazine est reçu. Moi, je suis en confiance parce que je pense que vraiment c'est une période où on a besoin d'être épaulé et que ça va être un outil supplémentaire.
On va parler de la télé, la maison des maternelles, ça marche très très bien. Énorme projet, le retour de Masterchef que vous allez présenter à la rentrée, ça sera sur France 2. Je le dis, c'est d'autant plus étonnant que l'émission est un programme de TF1 de 2010 à 2015, c'était sur la Une. Comment ce projet est arrivé à vous, Agathe Le Caron?
Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup exprimé auprès de mes patrons que je rêvais de refaire une émission de cuisine. D'ailleurs, j'étais chez Laurent Mariotte il n'y a pas très longtemps sur votre belle radio. Je me sens bien parce que la cuisine, c'est un truc que j'adore, voilà.
Et ils vous ont entendu?
Et ils m'ont entendu, j'imagine. Alors, je ne savais pas qu'il y avait dans les petits papiers l'idée de reprendre cette belle marque. Mais en tout cas, forcément, quand il en a été question, j'étais trop contente.
Vous avez dit « je vais rafraîchir Masterchef ». De quelle manière?
Oui, alors, je n'ai pas dit « je vais rafraîchir Masterchef ».
C'est ce qui est écrit dans le journal.
Je vais essayer, on va tous essayer, ouais. Toute l'équipe, de rafraîchir
de quelle manière
le concept. Alors déjà,
qui va changer? C'est des amateurs dans Masterchef, contrairement à Top Chef où ce sont des pros.
Mais ça a toujours été des amateurs.
Et ça va rester?
Ça va rester.
Le jury?
Le jury, je peux pas en parler, malheureusement, mais enfin, je peux pas dire qui c'est.
Mais des nouveaux jurés?
Il y aura des nouveaux jurés, oui, tout à fait.
Si on dit il y aura de nouveaux jurés, ça veut dire qu'il y aura des anciens?
Oui, voilà.
Moite-moite.
Ça, c'est pas moite-moite, mais je peux pas en dire plus. Mais en tout cas, on va rafraîchir. Je sais pas si on va rafraîchir, mais en tout cas, on va forcément. Mais c'est naturel. À partir du moment où on change d'animatrice, on change aussi un peu de ton. C'est comme les maternelles. Hein. À chaque animatrice, son ton bien personnel.
Évidemment.
C'est en ça que ça va changer. Ça va être joyeux, en tout cas.
Vous avez présenté Top Chef en 2011. Justement, vous en gardez quel souvenir?
Délicieux. C'était un.
Ah bon?
Ouais.
Ah, vous avez dit, on coupait mes blagues au montage, justement.
On coupait mes blagues
au
montage.
C'est pas délicieux si on est...
Mais le tournage était formidable.
Ah oui.
Non, mais après, c'est sûr que c'était assez rigolo parce qu'à chaque fois que j'allais... Il y avait un gimmick, c'est qu'à chaque fois que j'allais voir les candidats en leur demandant si ça allait, ils m'envoyaient bouler. Donc je disais... Alors, ça va, l'épreuve, ça se passe bien. Oui, enfin, si tu me lâches la grappe, ça va aller encore mieux. Et donc, tout ça, j'avais dit à la productrice, à Florence Duhaillot, je dis, garde-le, parce que c'est formidable. Oui. Je trouvais ça marrant de me faire envoyer bouler. Et puis, bon, ils ont coupé, en fait, tous ces trucs-là. Mais il faut voir que c'était la deuxième saison. Donc, on était dans une marque avec un cahier des charges très précis et tout. Aujourd'hui, je pense que ça serait plus ça. Mais justement, dans Masterchef, on va se laisser la liberté de laisser les séquences vivre. Voilà.
Infomédia dans le monde, j'étais assez surpris de voir ça, c'est Masterchef qui cartonne. Oui. Il y a des versions dans 83 pays différents, autant que The Voice. Vous avez déjà revu les anciennes émissions ?
Non, mais en plus Masterchef, j'ai vu que très peu d'émissions à l'époque, parce que j'étais en Belgique et c'est vrai que ça passait pas sur les chaînes belges. Donc, je trouve ça très bien parce que j'aborde ce programme sans connaître vraiment ce qui s'est fait avant.
La chance du débutant.
Oui.
Vous nous avez parlé d'une émission qui s'appelait Chemin de Traverse, vous en êtes où ?
Ah oui. Ah bah j'en suis qu'on va tourner, là, on tourne au printemps.
Enfin, parce que depuis le temps, chaque fois que nous verrons bien, il y a ce projet. Chemin de traverse, vous emmenez, je raconte le concept, une personnalité dans un endroit symbolique pour lui et elle. Et ça n'a pas encore démarré, mais ça va démarrer.
Ça va démarrer, on tourne au printemps et ça sera diffusé, je pense, dans quelques mois. Ça ne sera pas tout de suite. Et là aussi, on va dire que là, on est plus dans la mouvance de bel et bien. C'est-à-dire qu'on est dans l'intimité, notre état d'être, entre guillemets. On va vraiment sur les chemins de traverse. De la vie de notre personnalité et de la vie en général. Donc c'est de la psycho, moi j'adore.
Chaque jour une découverte avec vous Agathe Le Caron. J'ai appris dans Voici que vous êtes devenue, je cite, la nouvelle influenceuse mode de la télé française. Expliquez.
Alors j'ai vu ce truc passer. Je vous le dis, Philippe, je suis trop fière. Si on m'avait dit un jour qu'il y aurait ce titre-là, je suis trop contente, merci, voici. Je ne suis pas du tout la nouvelle influenceuse mode, mais comme j'ai une super styliste qui me met des pulls magnifiques dans les maternelles et que donc le public demande les marques, je l'ai mis sur mes réseaux et alors là, je crois que ça a fait son petit succès, quoi, oui, Philippe.
Dernière question, c'est la mise à jour totale. C'est vrai que vous rêvez de jouer dans Plus belle la vie ?
Dans Bientôt Feu, Plus belle la vie,
j'en ai bien
peur.
Dépêchez-vous.
Non mais moi j'adorerais, en fait je suis fan de soap opéra depuis toujours.
C'est pas vrai.
J'ai toujours regardé tous les trucs.
Toutes les merdouilles.
Toutes les merdes qui passent de Santa Barbara à Plus belle la vie n'est pas du... En plus, Plus belle la vie n'est pas du tout une série de merde.
Bien sûr.
Pas du tout.
Non, vous parliez des soaps. Les soaps, vous aimeriez en faire partie.
Mais j'ai fait mon mémoire de maîtrise à la Sorbonne sur le statut des femmes dans les soap opéra américains. Donc j'ai réussi même dans mes études... à parler des soap opéras. Je suis fascinée par les soap opéras, des Feux de l'amour, Amour, gloire et beauté, en passant par Plus belle la vie, Un si grand soleil, Demain vous appartient, je regarde tout.
Mais je vous vois trop en train de faire la cuisine pendant que Charline Gals coupe du bois.
Exactement.
Dans la petite maison dans la prairie.
Il est en bout de table avec son violon, tout excité, on prépare l'eau chaude parce que Marie va accoucher. Mais vous vous rendez pas compte. Et moi je consomme ça comme de la radio. Et en fait, c'est parce que je suis fille unique et que j'ai été quand même assez seule et que ça a toujours été un compagnon. Les soap opéras, ça a toujours été mon compagnon de vie quand j'étais célibataire, etc. Maintenant, je peux moins parce que mon mari n'est pas fan, lui. Dommage.
Votre mari, qu'on salue, le patron des sports de TF1, je ne donnerai pas son nom, c'est partout. Agathe Le Caron, je rappelle, ce trimestriel, ça sort encore en kiosque cette semaine avec votre image, votre photo. Ce ne sont pas vos enfants, les maternelles avec Agathe Le Caron. 4,50 €. Merci d'avoir été avec nous.
Merci Philippe de m'avoir invité.